Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du mercredi 18 septembre 2024. Voici le sommaire. Au Mali, le calme revient progressivement dans la capitale Bamako au lendemain d'attaques meurtrières revendiquées par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda.
C'est ce matin que devrait s'ouvrir le procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Certains officiers interpellés dans le cadre de cette affaire-là sont détenus à l'intérieur de l'école de gendarmerie.
Les derniers développements et les enjeux de cette affaire à suivre dans la partie magazine avec Sekou Tangara, directeur de la télévision Africable basée à Bamako. Au Ghana, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier pour réclamer l'audit des listes électorales à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Des explosions meurtrières attribuées à Israël frappent des beepers du Hezbollah au Liban. Au moins 9 morts et près de 2800 blessés selon un bilan provisoire. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Michel Joseph et les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué hier une double attaque contre l'aéroport militaire et une école de gendarmerie à Bamako, au Mali. Après presque 3 heures d'échanges de tirs, l'armée malienne affirme avoir pris le dessus. Le point avec John Lyndon.
Bamako s'est réveillé hier à l'aube au son des tirs d'armes à feu entrecoupés de fortes déflagrations. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué une double attaque contre l'aéroport militaire et contre l'école de gendarmerie. La télévision malienne a montré une vingtaine de prisonniers après l'attaque, revendiqués par les djihadistes du Djenim, qui ont assuré avoir infligé de lourdes pertes humaines et matérielles. Les terroristes ont été neutralisés. Le ratissage continue, a déclaré au journal de l'ORTM le chef d'état-major des armées, Oumar Diarra. L'armée malienne a déclaré mardi avoir le contrôle de la situation. Un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier, a dit l'armée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
L'armée malienne a reconnu quelques pertes en vies humaines dans ses rangs. Voici ce qu'elle a fait savoir dans un communiqué lu hier soir à la télévision d'État, ORTM. La riposte des forces de défense et de sécurité a permis de repousser l'attaque et de neutraliser les terroristes. Cette attaque lâche et perfide a occasionné quelques pertes en vies humaines côté ami. Nous déplorons notamment le sacrifice héroïque de certains élèves gendarmes, indique le communiqué de l'état-major des armées. Au Ghana, plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans la rue mardi à l'appel de l'opposition pour réclamer un audit des listes électorales. L'opposition dit craindre des fraudes en faveur du parti au pouvoir lors de la présidentielle de novembre. Jean-Roger Billon.
Les manifestants ont répondu à l'appel du Congrès national démocratique, NDC, le principal parti d'opposition qui accuse la commission électorale d'avoir falsifié les listes pour favoriser le nouveau parti patriotique NPP au pouvoir et son candidat, le vice-président Mahamadou Bawumia. Il sera opposé à l'ancien président John Mahama, candidat du NDC, et la course entre ces deux favoris s'annonce serrée. Le NDC et plusieurs autres partis d'opposition affirment que la commission électorale s'est entendue avec le NPP pour falsifier le registre électoral en incluant plus de 50 000 noms de personnes décédées et en écartant certains électeurs. La commission a rejeté cette accusation, expliquant que ces modifications ont juste pour but de mettre à jour les listes et d'assurer la transparence. Le NDC envisage de poursuivre les manifestations jusqu'à ce que la commission réalise l'audit demandé.
Au Nigeria, au moins 25 enfants qui se rendaient à une fête religieuse ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans un accident de la route dans le nord du pays. Plus de détails avec Rosine Munezero.
Le chauffeur du bus transportant de jeunes musulmans qui se rendaient aux célébrations du Mauloud a perdu le contrôle de son véhicule dimanche dans l'état de Kaduna avant de percuter un camion. Le bus était surchargé avec 63 enfants. 15 d'entre eux sont morts sur le coup, tandis que 48 blessés ont été amenés dans divers hôpitaux. 10 d'entre eux sont décédés le lendemain, ce qui porte le nombre de morts à 25, a déclaré Kabiru Nadabo, chef de l'agence de sécurité routière à Kaduna. Un des organisateurs du déplacement, Diko Dairou, a de son côté évoqué un bilan plus lourd avec 40 enfants tués et 31 grièvement blessés sur 71 passagers au total. Les enfants venaient du village de Kwandari dans l'état du Plateau dans le centre et se rendaient dans la ville voisine de Saminaka dans l'état de Kaduna dans le nord pour les célébrations de la naissance du prophète Mahomet, le Maouloud. Le président Bola Ahmed Tinubu, lui-même musulman, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné à la Commission fédérale de la sécurité routière d'améliorer la surveillance et réduire le nombre d'accidents de la route dans le pays.
Le président américain Joe Biden a appelé mardi les parties au conflit au Soudan à reprendre les négociations pour mettre fin à la guerre qui dure depuis avril 2023. J'appelle les belligérants à retirer leurs forces, faciliter l'accès humanitaire et réengager les négociations pour mettre fin à cette guerre, a-t-il déclaré dans un communiqué publié quelques jours après que des vifs combats ont de nouveau éclaté au Darfour. Les États-Unis n'abandonneront pas leur engagement envers le peuple soudanais qui mérite la liberté, la paix et la justice, a ajouté le président Biden, qui précise que l'aide américaine aux civils soudanais a atteint 1,6 milliard de dollars en 2 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé ce mercredi à l'aube au Caire pour une visite éclair en Égypte, marquant son 10e voyage dans la région. Monsieur Blinken entend continuer à faire pression pour un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Au Caire, le chef de la diplomatie américaine doit s'entretenir avec le dirigeant égyptien Abdel Fattah al-Sissi et co-présider une réunion du dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Égypte, selon le département d'État. Il doit également tenir une conférence de presse avec son homologue Abdel-Lati. La semaine dernière, Washington a décidé de débloquer l'ensemble de son aide militaire annuelle à l'Égypte, soit 1,3 milliard de dollars, sans y poser de conditions liées au respect des droits humains, contrairement à l'an dernier. Le Congrès doit encore donner son accord. Au moins 8 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées. Plutôt 9 personnes au moins sont mortes et des centaines ont été blessées mardi par les membres du Hezbollah à travers le Liban par l'explosion simultanée de leur beeper. L'attaque a été attribuée à Israël par le mouvement islamiste libanais. Alexandrine Holognon.
Israël n'a pas commenté ces explosions survenues dans plusieurs places fortes du Hezbollah, quelques heures après l'annonce par ce pays qu'il étendait les objectifs de la guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, à sa frontière nord avec le Liban. Des centaines de membres du mouvement ont été blessés par l'explosion simultanée de leur beeper, un système de radiomessagerie dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le sud du Liban et dans la plaine orientale de la Beka. 8 personnes ont été tuées et près de 2750 autres blessées, a déclaré le ministre de la Santé libanais Firas Abiad. Une source proche du mouvement a indiqué que les beepers qui ont explosé concernent une cargaison récemment importée par le Hezbollah de 1000 appareils qui semblent avoir été piratés à la source. Le Hezbollah a affirmé qu'Israël était entièrement responsable de ces explosions et assuré qu'il allait recevoir son juste châtiment.
L'Assemblée générale de l'ONU se prononce ce mercredi sur une résolution exigeant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Le texte doit être mis au vote à 11h heure de New York, 15h GMT. Le projet de résolution débattu depuis mardi par les 193 États membres de l'ONU fait suite à l'opinion de la Cour internationale de justice qui, en juillet, avait estimé que la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite et qu'Israël est dans l'obligation d'y mettre fin dans les plus brefs délais. Même si les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, Israël a fustigé le projet de résolution. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a appelé mardi à la ferveur de ses partisans 2 jours après avoir été visé par une deuxième tentative d'assassinat. Seuls les présidents importants se font tirer dessus, a-t-il dit. Le candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre a fait un lien entre sa deuxième tentative d'assassinat et ses projets de lourdes taxes sur les importations automobiles en provenance de Mexique et de la Chine lors d'un meeting à Flint dans le Michigan, une ville qui a connu les fermetures fermeture de plusieurs usines automobiles. Sa rivale démocrate Kamala Harris en déplacement en Pennsylvanie, qui est comme le Michigan un état décisif pour l'élection du 7 novembre, a appelé mardi l'ancien président pour lui dire directement qu'elle était heureuse qu'il soit sain et sauf, selon un responsable de la Maison Blanche. La conversation a été cordiale et brève, selon la même source. La Corée du Nord a tiré une salve de missiles balistiques à courte portée tôt ce mercredi, a annoncé l'armée sud-coréenne. C'est le deuxième essai de ce type en une semaine. Selon des experts, ces essais pourraient avoir un lien avec la fourniture présumée par la Corée du Nord de munitions et de missiles à Moscou pour sa guerre en Ukraine. Les Occidentaux accusent Pyongyang de livrer des armes à la Russie, ce que le régime réfute. La Corée du Nord a récemment renforcé ses liens militaires avec Moscou. Le président Vladimir Poutine ayant effectué une rare visite à Pyongyang en juin dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Michel Joseph.
La compagnie minière sud-africaine Seriti Resources prévoit de supprimer 1241 emplois afin de limiter les coûts dus à la baisse des prix et au goulot des tremblements persistants dans les chemins de fer. Le syndicat des mineurs est déjà vent debout contre cette décision et va se lancer dans une mobilisation massive pour combattre cette mesure. La pâte à tartiner algérienne n'est pas au goût de l'Union européenne, qui en interdit la commercialisation. L'Algérie ne remplit pas l'ensemble des conditions, justifie le ministère français de l'Agriculture au nom de l'Europe. Pour le président de l'Association algérienne de protection des consommateurs, cette interdiction est une décision abusive destinée à protéger les pâtes à tartiner européennes. La Banque centrale américaine conclut ce mercredi sa réunion au cours de laquelle elle devrait abaisser ses taux pour la première fois depuis 2020. Les taux se trouvent depuis juillet 2023 dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, leur plus haut niveau en plus de 20 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, l'avait signalé fin août. Le temps est venu d'assouplir la politique monétaire.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yakuba Ouédraogo. Salut Yakuba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Suite ce soir des matchs de la phase des poules de la Ligue européenne des champions.
Oui, le Paris Saint-Germain lance contre Gérone sa campagne avec une équipe jeune et sans grande star après le départ de Kylian Mbappé. Manchester City retrouve l'Inter de Milan. De quoi raviver le doux souvenir du titre acquis en 2023 contre les Italiens et chasser les nuages du procès financier qui menace le géant anglais. À suivre aussi Dortmund de Seydou Guirassy, le Guinéen qui reçoit Club Brugge. Boulogne fait face à Shakhtar, Sparta Prague joue contre Red Bull Salzbourg. Pour rappel, dans ce nouveau format de la Ligue des Champions à 36, les clubs de l'élite européenne vont batailler pour accrocher l'une des 8 premières places directement qualificatives ou à défaut un billet pour les barrages en se plaçant de la 9e à la 24e place. Le tableau des tours à élimination directe commence à partir des 8e de finale.
Entrée en matière réussie hier pour certains cadors.
Le Real Madrid, champion en titre, a souffert mais s'est imposé face à Stuttgart 3-1 au Santiago Bernabéu. Liverpool de l'Égyptien Mohamed Salah a renversé l'AC Milan 3-1 à San Siro. Le Bayern Munich a pulvérisé le Dynamo Zagreb 9-2. La Juventus a lancé victorieusement sa campagne européenne en dominant 3-1. Une équipe du PSV Eindhoven inoffensive pour son entrée en lice à Turin. Victoire aussi de l'équipe anglaise d'Aston Villa qui a battu nettement 3-0 les Young Boys à Berne. Lille, réduit à 10, s'est incliné 2-0 contre le Sporting à Lisbonne.
Au Kenya, le programme antidopage a été interrompu par des coupes budgétaires.
L'athlétisme kényan risque de compromettre ses progrès dans la lutte contre le dopage et d'être banni des compétitions internationales en raison de coupes budgétaires qui ont interrompu tous les tests.
L'alerte a été donnée par l'agence antidopage du Kenya qui affirme qu'elle n'a reçu que 20 millions de shillings, un peu plus de 150 000 dollars, pour financer ses programmes quotidiens sur l'exercice budgétaire débutant en juillet, une fraction des 288 millions de shillings, soit environ 2,2 millions de dollars environ, escompté. Le programme antidopage est l'une des victimes des coupes budgétaires à grande échelle imposées par le gouvernement. Après l'abandon d'un projet de loi fiscale sous la pression de manifestations massives en juin, le Kenya a investi massivement pour redorer son image après une série de scandales de dopage qui ont failli le faire banni des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et lui ont valu d'être déclaré non conforme par l'Agence mondiale antidopage.
Merci, Yakuba.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué hier une double attaque contre l'aéroport militaire et une école de gendarmerie à Bamako. Les terroristes ont été neutralisés, a déclaré au journal de la télévision nationale le chef d'état-major des armées, Oumar Diarra. L'armée malienne dit avoir le contrôle de la situation. Pour faire le point et analyser la situation, Yacouba Ouidraogo a joint à Bamako Sékou Tanga, directeur de la télévision Africable.
Les derniers développements, c'est que tout le périmètre et les voies qui jouxtent l'école de gendarmerie ont été bouclés, sécurisés, formellement interdits d'y passer. Sinon, ailleurs, les Bamakois circulent tranquillement à leurs occupations, surtout depuis le début d'après-midi où le chef d'état-major général des armées a rendu visite aux forces armées maliennes justement à l'intérieur de l'école de gendarmerie pour les motiver et puis également voir de visu l'état des personnes qui ont été interpellées.
Le DNIM affilié à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque, parlant d'une attaque au niveau de la gendarmerie de Faladjé, mais aussi de l'aéroport militaire. Est-ce qu'on en sait un peu plus?
La voix officielle était celle de l'état-major qui a communiqué à travers son chef. Il n'a pas parlé de l'aéroport, mais ce qu'on sait quand même, c'est que les mouvements étaient restreints au niveau de l'aéroport international Modibo Keïta Simou jusqu'à 15h. Et une heure après, on a vu un communiqué du ministère des Transports qui affirme que l'aéroport est ouvert à la circulation. En tout cas, selon la communication du chef d'état-major général des armées, il n'a pas fait cas de l'attaque de l'aéroport international Modibo Keïta Simou.
L'attaque intervient au lendemain de l'an 1 de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Et dans quelques jours, le 22 septembre, c'est l'indépendance du Mali. Est-ce qu'il faut faire un lien?
Oui, effectivement, on peut faire un lien, parce que présentement, les trois ministres des Affaires étrangères de l'AIS, sinon du Burkina Faso et du Niger, se trouvent au Mali. Ils ont même été reçus en audience cet après-midi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ça peut être l'une des explications. L'autre explication également, c'est que ce 17 septembre commémore le 64e anniversaire de la gendarmerie nationale. Ajouté à cela également, dans quelques jours, c'est le 22 septembre, la fête d'indépendance du Mali. Mais il y a un prétexte que beaucoup semblent ignorer, qui n'est pas évoqué. C'est le fait que c'est ce matin que devrait s'ouvrir le procès dit de l'avion présidentiel et des équipements militaires, un dossier qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive sous le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, et que certains officiers interpellés dans le cadre de cette affaire-là sont détenus à l'intérieur de l'école de gendarmerie. Finalement, même le procès a été renvoyé à la semaine prochaine, précisément le 24 septembre, pour justement cause d'insécurité à Bamako. Donc on peut être vraiment d'accord avec vous en évoquant un peu la fête d'indépendance du Mali, la présence des ministres des Affaires étrangères de l'AIS au Mali, le premier anniversaire de l'Alliance et également l'ouverture qui était programmée ce matin du procès dit de l'avion présidentiel et des équipements militaires qui finalement n'aura lieu que la semaine prochaine.
Sékou Tangara, directeur de la télévision Africable.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, les taxes sur les véhicules ont fortement augmenté. Pour importer des véhicules lourds et de tourisme, il faut s'acquitter désormais d'une taxe de 150 000 francs CFA contre 15 000 auparavant. Cette hausse vertigineuse de 900% crée la stupeur au sein des importateurs de véhicules. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Le 5 septembre dernier, les importateurs de véhicules découvrent avec beaucoup de surprise les nouvelles taxes fixées par le port autonome d'Abidjan. Les gros camions et les véhicules de tourisme sont désormais taxés à 150 000 francs CFA contre 15 000 francs CFA auparavant. Une hausse qui laisse sans voix de jeunes entreprises d'import-export.
Comme tout le monde, on l'a appris sur les réseaux, on a vu la note officielle, on croyait que c'était une blague, mais malheureusement, on a constaté que c'était vrai et on a été d'abord choqués. Vraiment choqué parce que personne n'a été consulté, la note est sortie et ça nous a été imposé. Ils ne nous ont même pas donné de préavis pour pouvoir se préparer, même on va dire 6 mois ou 1 an à cette augmentation et donc on a été vraiment choqué.
Les transitaires ivoiriens sont tout autant désorientés que les autres acteurs. Ils ont déjà eu du mal à accepter la limitation d'âge à 5 ans sur les véhicules importés. Cette nouvelle taxe vient comme un coup de massue qui risque de mettre en péril leurs activités.
Donc quand on a vu, en tout cas nous étions étonnés. Alors comment est-ce qu'on peut passer de 15 000 francs une tonne à 150 000 . Voilà, donc on a trouvé quand même que ces frais sont démesurés.
Ces nouvelles taxes ont des conséquences directes sur l'importation de gros véhicules en Côte d'Ivoire. Si les transitaires se projettent pour voir dans quelle mesure ils peuvent tenir, les petites entreprises, elles, sont contraintes de mettre une pause à leurs activités. Et cela sans compter le coût de la vie qui devient de plus en plus cher.
Bon, directement, c'est déjà, en tant que petit importateur de gros camions, c'est déjà même la remise en question de mon business model. Parce que là où vous avez des marges de 3 millions et vous allez vous retrouver à payer ça en taxes, déjà pour les prochains arrivages, c'est sûr qu'on n'aura pas de bénéfices. On n'aura pas de bénéfices et là, il faudra déjà penser à comment même réorienter l'activité.
Depuis 2018 jusqu'à 2024, nous essayons d'exister avec la mesure donc, de limitation d'âge des véhicules importés. Ils sont nombreux, ces importateurs, qui ont abandonné le secteur. Et ceux qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui, c'est tant bien que mal que nous arrivons à survivre.
Selon les autorités portuaires, l'augmentation de ces taxes s'inscrit dans un plan plus large visant à soutenir la modernisation et l'amélioration des infrastructures du port autonome d'Abidjan, un carrefour commercial stratégique pour la sous-région ouest africaine. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Nairobi, la capitale du Kenya, tente de lutter contre la pollution atmosphérique chronique avec l'aide de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Les autorités placent des capteurs capables de surveiller la qualité de l'air autour de cette ville densément peuplée. Les détails dans ce reportage de Victoria Amunga, le récit est de Rosine Munezero.
La circulation dense et de fortes émissions de carburant caractérisent certaines rues de la capitale kenyane. La ville compte au moins 5 millions d'habitants et les autorités affirment que la qualité de l'air diminue en raison de l'augmentation du nombre d'habitants. Geoffrey Mosiria est responsable de l'environnement à Nairobi.
Many vehicles use diesel and petrol.
De nombreux véhicules utilisent du diesel et de l'essence. Ils émettent beaucoup de gaz chimiques dans l'air. Et nous avons aussi des industries dont certaines sont construites dans les zones résidentielles.
Des habitants comme Eunice Shuli, une vendeuse de Nairobi, subissent de plein fouet les conséquences de cette situation. Elle tombe souvent malade et pense que c'est à cause de l'air qu'elle respire au quotidien. Eunice Shuli, vendeuse à Nairobi.
Récemment, j'ai eu un problème de toux. Je toussais très fort. J'ai dû aller à l'hôpital pour me faire examiner. J'ai été sous traitement pendant toute une semaine.
C'est une situation à laquelle les autorités commencent à faire face. La première étape consiste à installer des moniteurs de qualité de l'air dans toute la ville. L'entrée du moniteur capte les particules dans l'air. Les fragments les plus gros sont éliminés, tandis que les particules les plus fines sont acheminées vers un filtre. Georges Moaniki, responsable du travail sur la qualité de l'air à l'Institut des ressources mondiales, explique que le système mesure les particules qui sont généralement dangereuses dans le corps humain.
Elles arrivent à un filtre ici où elles sont impactées, puis la machine a une balance très sensible qui pèse toutes les minutes, ce qui est les changements en termes de poids du filtre.
Avec les dispositifs de surveillance de l'air, Nairobi rejoint les 10 villes du monde qui travaillent à l'assainissement de l'air en recueillant des données. Mike Saxton de Bridge Cities Initiative.
L'initiative Bridge Cities cherche à adopter une approche sectorielle. Nous cherchons des politiques innovantes dans le domaine des transports, de la gestion des déchets, dans tous les secteurs d'activité.
Les données collectées sont envoyées pour être analysées en temps réel. Au moins 37 moniteurs ont été installés jusqu'à présent. L'initiative est financée par l'Agence américaine pour le développement international USAID à hauteur de plus de 1,5 million de dollars. Selon le porte-parole de l'agence, les données aideront le gouvernement à cibler les interventions en matière d'assainissement de l'air là où elles sont le plus nécessaires et à évaluer leur efficacité. Selon un rapport de 2020, plus de 5000 décès au Kenya sont causés chaque année par la pollution de l'air. Le docteur Jared Mecha, spécialiste des maladies respiratoires, affirme que les maladies dues à la pollution de l'air sont de plus en plus préoccupantes.
You have cough.
Vous avez une toux que vous ne pouvez pas expliquer. Puis nous avons aussi des cancers des voies respiratoires supérieures.
Selon les personnes interrogées par VOA, les solutions possibles pour Nairobi comprennent l'adoption de véhicules électriques, un meilleur contrôle des émissions industrielles et la collecte et l'élimination appropriée des déchets. Les chercheurs affirment que la bonne volonté politique est essentielle à la mise en œuvre de toute solution. Les habitants comme Julie espèrent que des améliorations durables de la qualité de l'air pourront être trouvées rapidement.
Au Cameroun, une salle de sport est exclusivement dédiée aux femmes pour leur apprendre des techniques d'autodéfense. Un espace où les femmes peuvent acquérir des compétences vitales en vue d'une autonomie contre tous les types de violences. Le reportage à Yaoundé d'Anne Zouanke est relaté par Jean-Roger Bion.
Dans cette salle de sport de Yaoundé, des femmes s'entraînent pour apprendre à se défendre. Elles sont inscrites à un art martial axé sur les tactiques d'autodéfense dans des situations réelles. Le Krav, Maga Women Protect, créé en mai. Ce club de la capitale camerounaise dédié aux arts martiaux compte une trentaine de membres et la plupart des femmes qui le fréquentent ont été victimes de violences. Sarah Pibble est l'une d'entre elles et a elle-même survécu à une attaque.
J'ai été agressée quand je rentrais du travail. C'était une agression particulière parce qu'elle m'a traumatisée. On a tout pris, argent, téléphone, bijoux. Et ce jour, comme il pleuvait, j'ai dû rentrer à la maison sous la pluie. Après ça, on m'avait parlé de la self-défense, comment apprendre à se défendre ou alors anticiper une éventuelle agression.
Certains membres disent qu'avant l'ouverture du club, ils ne savaient pas comment se protéger d'éventuelles agressions. Tandis que d'autres disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise de faire de l'exercice dans un environnement mixte où les hommes s'entraînent. Le club KMWP a été créé par Alain Flavier Yambe. Il explique pourquoi il a lancé des cours réservés aux femmes.
Donc pour les femmes, par exemple, qui sont souvent fait violenter, c'est souvent parfois traumatisant de revivre certains aspects de leur agression en salle, et surtout si elles sont en cours avec les hommes. Nous avons donc créé cette option femmes où elles peuvent tout se dire entre elles parce qu'elles se sentent en sécurité entre elles. Mais l'objectif n'est pas de rester juste entre femmes, mais c'est de rejoindre également les cours mixtes.
Olga Etundi, instructrice d'autodéfense à la salle de sport, présente des techniques spécifiques pour chaque type d'attaque ainsi que les critères inhérents au choix des techniques.
Nous appartenons à une association qui pratique la self-défense spécifiquement dédiée aux femmes, qui a mis sur point 17 techniques. Nous avons par exemple la défense contre l'écranglement, que ce soit l'écranglement à deux mains ou alors l'écranglement à une main. Donc on apprend aux adhérentes à se défendre contre ces types d'agressions ou alors des gifles.
Selon les experts, la création d'un club exclusivement féminin est une bonne initiative qui renforce la confiance des femmes, en particulier celles qui ont été traumatisées par la violence. La violence contre les femmes est la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde, selon l'ONU. Ces femmes camerounaises espèrent changer cela en apprenant à se défendre contre la violence, une tactique d'art martial à la fois.
Et c'est avec ce reportage à Yaoundé d'Anne Mireille Zwanke, relaté par Jean-Roger Bion, que nous mettons un terme à cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet voafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.